Radio Tintamarre.
Radio Tintamarre.
Collège Rancel.
Radio Tintamarre.
Bonjour, je m'appelle Lindsay.
Bonjour, je m'appelle Emilie.
Bonjour, je m'appelle Nassine et j'aime bien les jeux vidéo.
Bonjour, je m'appelle Louis.
Bonjour, je m'appelle Eloane.
Ben, c'est quoi vos influenceurs préférés ?
J'aime bien les influenceurs qui font rire.
I love you so much.
Bonjour, je m'appelle Oriana.
Bonjour, je m'appelle Mehdi.
Je m'appelle Fernando. Et je regarde tant en temps des vidéos.
Bonjour, je m'appelle Adeline.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Et j'aime bien regarder des vidéos.
Radio Tintamarre.
Aïe, j'entends.
Salut, nous sommes les 4e SECPA du collège Grand Selve de Grenade.
Avez-vous envie de découvrir le monde de YouTube ?
Comment les YouTubeurs réalisent-ils leurs vidéos ?
Gagnent-ils leur vie ?
Essayent-ils de nous influencer ?
Alors écoutez notre émission de radio, vous aurez en plus le droit à une interview inédite du YouTubeur Gonzalo Ruiz.
Voici notre sommaire de notre émission.
D'abord la chronique « Qu'est-ce qu'un YouTubeur ?» suivi de Slam, d'après le texte Mathieu Lambèze. Puis le micro-trottoir, une autre chronique « Mais pourquoi ce succès ?»
Et l'interview de Gonzalo Ruiz, youtubeur du site Drop of Curiosity. Et enfin la dernière chronique. Bonne écoute, merci. Tu sais ce que c'est qu'un youtubeur ?
Pas un youtubeur, un youtubeur.
Mais non, un youtubeur.
Bon bref, un youtube, je sais pas quoi. C'est une personne qui réalise des vidéos sur YouTube.
Des vidéos de quoi ?
Par exemple, des vidéos qui donnent des conseils de beauté.
Ah ouais, mais tu les as pas trop regardées toi celles-là. Ou pas assez.
Ah ouais, merci.
Il peut y avoir plein d'autres thèmes super intéressants aussi, comme...
L'évolution de l'habitat des fourmis entre 1780 et 1850.
Les courses de chevaux en Mongolie au 19e siècle.
Ah ouais, mais ils ont 3 abonnés ceux-là. Les youtubeurs les plus célèbres ont plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Comme Squeezie, PewDiePie, Norman, Cyprien. Ils font des vidéos comiques, ils testent des jeux vidéo, etc.
Le phénomène est très répandu. De nombreux ados rêvent de devenir des youtubeurs célèbres, mais la majorité d'entre eux sont inconnus du grand public et ne comptent que quelques dizaines ou quelques centaines d'abonnés.
Je me suis levé un beau matin
avec des rêves dans la tête.
La vie, ce n'est pas toujours la fête.
Alors je m'évade dans mon jardin.
Je me voyais déjà suivi par toute la planète.
Être scruté, commenté, copié, admiré, détesté.
Je veux que ma vie soit ce rêve, être aimé, claquer des doigts et voir tout arriver sans attente.
Je posterai des vidéos très souvent.
Avec les stars du moment.
J'aurai une influence tout le temps, surtout sur les adolescents.
Je serai le centre du monde, sans moi la terre ne serait pas ronde.
Je serai le plus beau et on ne vivra que pour moi. Tout le monde cherchera sur moi les infos qu'il n'a pas.
Je signerai des autographes, j'écrirai mes mémoires.
Afin que tout le monde sache quelle boisson j'aime boire.
Du jour au lendemain, je me réveillerai un matin.
Oublier de tous, zapper, effacer, et j'irai boire pour oublier.
Plus personne ne parlera de moi. Seuls les articles, que sont-ils devenus ?
Je serai seul, malheureux, perdu, abandonné, ici et là-bas.
Même si je ne me suicide pas, je serai déjà mort.
Car plus personne ne m'adore, et il n'y a que moi pour penser à moi.
Je serai une âme en peine, comme un litre de fontaine.
Mon rêve brisé, oublié, effacé, comme si je n'avais jamais existé.
Nous avons réalisé en classe tout un reportage sur le monde des youtubeurs. Nous savons à présent qu'est-ce que l'on découvre sur YouTube, qu'est-ce qu'on peut regarder, mais qu'en est-il au collège de Grenade? Qu'écoutent les jeunes, qu'écoutent leurs enseignants? Nous allons le savoir tout de suite grâce à nos micro-trottoirs.
Est-ce que vous regardez des vidéos de youtubeurs ou youtubeuses?
Oui, ça m'arrive de temps en temps pour des besoins très précis.
Oui, je regarde des vidéos.
Oui, effectivement.
Moi, oui, je regarde des vidéos YouTube.
Oui, moi aussi.
Quel youtubeur ou youtubeuse suivez-vous?
Je me souviens plus exactement son nom. C'est Robert Longeval, je crois. C'est quelqu'un qui fait des tutos sur YouTube à propos de bricolage. Donc, en fait, on a acheté avec ma compagne une maison il y a 2 ans. Je bricole dedans et de temps en temps, j'ai besoin d'avoir des astuces.
En youtubeur, je suis Nota Bene, vu que je suis professeur d'histoire et que ça me plaît, okay. Ce genre vidéo. Ou encore le joueur du grenier aussi, sur les jeux vidéo.
Je regarde Dooms, Alex, Troum Troum et Histoire Courte.
Moi, je regarde Dooms et 1-2-3 Go. Michou, Inoxtag, Squeezie, et puis voilà.
Plutôt Fuse 3, Fury Jumper, Overspace.
Fuse 3, Diabolo Fit 35 et Dolphanico.
GMXV.
Michou, de quoi parle-t-il?
Le premier, ce sont des vidéos d'histoire sur plusieurs thèmes historiques. Je trouve que c'est des vidéos très bien faites, du coup je les suis bien. Et le deuxième, ça parle de jeux vidéo et de vieux jeux vidéo.
De jeux vidéo.
De jeux d'horreur et de Minecraft.
Quand ils se font pranker?
Moi, c'est sur les jeux vidéo ou de la musique.
Est-ce que les youtubeurs que vous regardez vous apprennent des choses?
Alors oui, effectivement, ça m'apprend plein de choses. Donc c'est pour ça que je les regarde avant tout.
Il y en a qui m'apprennent des choses, mais après il y en a qui m'en apprennent pas trop.
Moi, par exemple, 1-2-3 Go, ça m'apprend beaucoup d'astuces pour le collège. Et Dooms, non.
Pas forcément, mais c'est surtout pour le fun qu'on regarde.
Comment as-tu connu ce ou ces youtubeurs?
Alors justement, je pense que c'est en tapant le thème ou le besoin que j'avais pour un projet de chez moi, un projet de construction, de bricolage, de réaménagement. J'ai tapé sur la barre de recherche YouTube le nom de ce que je recherchais et dans les suggestions, un jour, j'ai vu les vidéos de ce monsieur. Et je les ai trouvées simples, faciles à comprendre, assez parlantes. Donc voilà, je me suis abonné à ce monsieur.
Alors là, c'est une bonne question. En regardant sur YouTube, en traînant sur YouTube, tout simplement.
En regardant la première page d'accueil, ça donnait envie, donc j'ai regardé.
Grâce à mon frère.
Moi, parce que mes potes, m'ont parlé de ces youtubeurs.
Savez-vous s'ils ont beaucoup d'abonnés ou pas?
De mémoire, je dirais quelques milliers, mais j'en suis pas trop sûr.
Nota Bene, je sais pas s'il a beaucoup d'abonnés. Je sais que le joueur du grenier, il en a beaucoup. Je crois qu'il a 3 millions d'abonnés, un truc comme ça.
Oui, énormément.
Oui, Fuse, il est à 1 800 000. Fury Jumper, il est à 3 millions, je crois. Et Overspace à 300 000.
Non.
Je sais pas, 5 millions.
Combien de temps passez-vous à regarder des vidéos de youtubeurs?
Pas beaucoup de temps, quelques minutes dans la journée. Je ne sais pas si c'est au quotidien, une moyenne, ce serait même pas une minute par jour. 5-10 minutes de temps en temps.
Non, on va dire par jour. Une demi-heure, trois quarts d'heure?
Une demi-heure, 15 minutes par jour.
Une ou 2 heures par jour?
Entre 5 heures et 10 heures.
Moi, je reste dans le téléphone toute la journée, 5 heures.
Est-ce que vous vous sentez addict ou est-ce que vous savez vous limiter?
Je ne suis pas du tout addict à ces vidéos-là.
Bon, on va dire que je suis addict hein, quand même, hein. On ne va pas se cacher. Hein. On ne va pas se mentir, oui, un peu addict.
Oui, quand je pense que ça fait beaucoup trop longtemps que je regarde et que j'ai dépassé mon temps, j'arrête.
Je me sens addict.
Et est-ce que ça peut entraîner des problèmes avec tes parents?
Non,
un peu.
Est-ce que vous savez ce que c'est un influenceur?
Oui, je sais ce qu'est un influenceur et je ne suis pas du tout influençable. Je connais un petit peu leur méthode. Je crois savoir qu'ils parlent d'un sujet assez précis qui va toucher tous leurs abonnés. et il profite de ce sujet pour suggérer des produits ou des marques et faire en sorte que ses abonnés achètent ces produits. Donc je crois savoir qu'ils sont payés, subventionnés pour faire la promo de ces produits-là.
Je sais, mais je ne suis pas sûre. Enfin, je pense savoir.
Non, moi je n'en sais rien.
Savez-vous ce qu'on appelle un placement de produit ?
Alors oui, un placement de produit, c'est dans les films ou dans les séries, peut-être même dans les programmes de divertissement. C'est quand une marque donne de l'argent à la production pour que dans le film, il y ait un de leurs produits.
Sur YouTube, hein, par exemple, il y a beaucoup de YouTubeurs qui font des placements de produits en début ou fin de vidéo afin de recevoir un peu d'argent, tout simplement. Et donc, ça peut être pour des programmes, pour des objets électroniques, ça peut être pour beaucoup de choses en général.
C'est un peu la même chose, mais ça va être, il va montrer des projets et dire que c'est génial alors qu'il ne va pas s'en servir en fait.
Genre Cherry Jumper, un t-shirt avec marqué F et J dessus. Overspace aussi, avec sa tête genre un peu comme des animés.
Faire penser à acheter quelque chose pour le bien.
As-tu déjà acheté un produit après avoir regardé une vidéo de YouTuber ? Lesquels ?
Oui, la peluche Didier et le t-shirt de Sirène Head.
Non, moi j'en ai pas jamais acheté.
Non, moi non plus.
Est-ce que ça vous dérangerait qu'il essaye de vous vendre un produit ?
La frontière, elle est mince entre justement le conseil parce qu'il y a une marque qui fonctionne bien et qu'il aime bien utiliser et le placement de produit. En fait, j'ai tendance à penser que le placement de produit, le YouTuber le suggère pour être vendu. Est-ce que c'est de qualité ? Ça, je ne sais pas forcément. Donc, c'est une histoire de confiance avec le YouTuber.
Non, parce que je les passe et je sais que c'est pour eux de l'argent et que ça leur permet de faire du contenu. Donc, en général, je passe juste le moment où ils parlent de leurs produits, c'est tout, quoi.
Oui, parce que moi, je pense que c'est pour se faire plus d'argent.
Non, moi, ça ne me dérange pas.
Pour pas que ça arrête de me déranger, je passe le moment. Des fois, quand je regarde les moments, ça me donne envie de l'acheter, l'objet.
Merci.
Merci.
Tu m'éteins ces vidéos YouTube ?
Mais non, maman, je viens de commencer.
Tu rigoles ou quoi ? T'y es depuis 3 heures.
Ah, papa, il faut que tu m'achètes le même sweat que Squeezie.
Encore ? Mais pourquoi les youtubeurs ont-ils autant de succès et d'influence auprès des parents ? Des enfants. Et surtout des adolescents.
Parce qu'ils sont proches de nous.
Ils nous tutoient.
Ils parlent comme nous.
Leurs titres de vidéos donnent trop envie de cliquer dessus.
Ils nous ressemblent. Ils se filment dans leur chambre qui sont comme les nôtres.
Enfin, mieux quand même, parce qu'ils ont plus de sous.
Ils sont trop drôles. Ils nous parlent de choses qui nous intéressent. Bon, bref, ils nous mettent en confiance. C'est un peu comme des copains qu'on aime retrouver tous les soirs.
Derrière YouTube, probablement des heures de boulot. Pour en savoir plus sur le métier de YouTuber et notamment YouTuber en sciences, nous avons le plaisir d'accueillir Gonzalo Ruiz, qui fait de la médiation scientifique sur le cerveau. Il va probablement nous faire découvrir le monde merveilleux des YouTubers.
Combien de temps passez-vous à préparer vos vidéos ?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Parce qu'au début, une vidéo, ça me prenait à peu près un mois. Pourquoi un mois ? Parce que, on va dire, quand on crée une vidéo en science, il y a plusieurs étapes qui sont indispensables. D'abord, il faut trouver une idée. On se dit, ce serait bien, par exemple, de parler. J'en sais rien. Là, par exemple, on prépare une vidéo sur la peur. Donc, ce serait bien de parler de la peur. Pourquoi on a peur ? Pourquoi on a peur du noir, par exemple ? Ce serait intéressant de savoir pourquoi. Ensuite, bien, l'étape numéro 2, c'est qu'on va faire une recherche bibliographique. C'est-à-dire, il y a plein de scientifiques dans le monde qui font des recherches dans des laboratoires pour essayer de comprendre pourquoi l'être humain a peur des araignées, a peur des serpents, a peur du noir. Et du coup, à chaque fois qu'ils font leur recherche, ils publient un papier, un document qui est disponible sur Internet. Et du coup, nous, on cherche ces papiers, on les lit, et on essaie de trouver les informations qui nous intéressent. Et ensuite, on rédige un script. Donc ça, c'est l'écriture Donc c'est le script de la vidéo, comme pour un film au cinéma. On écrit tout ce qu'on va dire devant la vidéo et quand on trouve des idées intéressantes comme là, à ce moment-là, ce serait intéressant de faire un sketch un peu drôle ou quoi que ce soit, on écrit tout ça. Une fois qu'on a écrit, on vérifie qu'on ne dit pas n'importe quoi. C'est très important, surtout quand on parle de science. Et après, on passe au tournage. Le tournage, c'est relativement rapide. Après le tournage, c'est le montage, donc le montage sur ordinateur. Et ça, ça peut prendre vachement de temps, surtout que faire du montage pour YouTube, ça demande pas mal d'effets visuels. Comme, je sais pas, vous regardez YouTube, vous savez très bien que les vidéos, des fois, elles sont très dynamiques. Et ça, ça demande du temps à mettre en place. Et une fois que c'est monté, il faut l'exporter sur YouTube. Et tout ça, ça peut prendre énormément de temps. Donc aujourd'hui, on a réduit ce temps de travail. Donc aujourd'hui, on estime qu'on, pour une vidéo de 5 à 10 minutes, on passe à peu près 30 heures de travail. Et aujourd'hui, on a un stagiaire qui est monteur, donc c'est-à-dire qui fait le montage pour les vidéos. Et donc le temps, il est réduit encore plus. Donc notre objectif, c'est vraiment réduire ce temps pour pouvoir publier plus de vidéos. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
Où réalisez-vous vos vidéos ?
Avant, c'était là où j'habitais. Donc, ces dernières années, j'ai pas mal bougé. Donc, c'était à chaque fois soit à mon appartement. À un moment donné, j'étais chez mes parents, donc je filmais chez mes parents. Là, on a un studio. On est en train de mettre en place un décor. Et les prochaines vidéos qui sortiront, je sais pas quand. Parce que là, on fait une pause sur YouTube, mais on les filme ici.
Merci.
Est-ce que vous changez de décor à chaque vidéo et pourquoi ?
Dans l'objectif, c'est de ne pas changer de décor, c'est essayer de toujours garder le même pour créer une sorte d'identité. Et aussi, il faut le dire, ça facilite énormément le tournage. Parce que installer la caméra, installer les lumières, installer le micro, tout ça, ça prend énormément de temps. Pour vous donner une ordre de grandeur, enfin, pour une vidéo de 5 à 10 minutes, installer tout le setup en changeant de décor, ça peut mettre entre 30 minutes à 1 heure. Donc, c'est beaucoup de temps. Le plus efficace, c'est vraiment tout laisser installer et après, avec un bouton, tout appuyer et démarrer le tournage. Oui, j'ai pas mal changé de décor, mais c'est parce que j'avais pas le choix. Il y avait des déménagements avec le Covid, le confinement, tout ça. J'ai pas mal bougé aussi. Donc ouais, j'ai pas mal changé de décor, mais le but, c'est vraiment de garder le même.
Qui vous aide et combien êtes-vous dans l'équipe ?
Là, actuellement, on est quatre. On a un monteur vidéo qui s'appelle Tom. Juliette, qui est community manager, et on a Germain, qui est psychologue et ingénieur pédagogique.
Pourquoi un psychologue ?
Un psychologue, parce que c'est une autre façon d'approcher les connaissances sur le cerveau et le comportement humain. Et surtout parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a deux activités, on fait de la vulgarisation scientifique, mais aussi on aide les étudiants à ne pas abandonner leurs études. Et donc, on a un psy qui permet de les accompagner et de les aider à vivre tout ça et surtout à traverser cette période qui est très difficile pour les étudiants qui le Covid, en fait, on a beaucoup de décrochages à cause de l'isolement et du mal-être étudiant. Donc voilà pourquoi il y a un psy.
Merci.
Quel site de montage utilisez-vous ?
On a commencé au début à utiliser un logiciel qui s'appelle Sony Vegas Pro et qui est très bien pour démarrer. Finalement, on a remarqué que c'était assez limité parce que quand on veut apprendre par soi-même, on est autodidacte, hein, donc quand on veut apprendre par soi-même, il faut regarder plein de petits tutos sur YouTube. Il n'y a pas beaucoup de tutos pour Sony Vegas Pro, donc on est passé à Adobe Premiere, qui est le logiciel utilisé principalement par la plupart des monteurs. Et là, il y a énormément de documentation sur Internet, donc ça nous permet d'apprendre plus facilement et plus rapidement.
Quel matériel utilisez-vous ?
Donc, trois lumières en haut. Voilà. Pour bien éclairer la personne, on a l'appareil vidéo, le micro, qui permet d'enregistrer le son. Deuxième micro, là, c'est pour aujourd'hui. Un petit boîtier qu'on utilise pour enregistrer le son. Tout est connecté, grosso modo. Donc nous, on veut mettre en place un décor, mais pour l'instant, on n'a pas encore acheté ce qu'il faut.
Pourquoi vous avez donné ce nom à votre chaîne YouTube ?
En fait, on doit trouver un nom pour une chaîne YouTube et j'en avais aucune idée. Je ne savais vraiment pas comment appeler ma chaîne. Je ne suis pas doué en plus pour trouver des noms. À l'époque, j'étais accompagné par l'université quand j'étais étudiant entrepreneur. Donc, on avait une classe. On était une dizaine de personnes et chaque personne avait un projet différent. Et donc, c'était une classe spéciale où chacun voulait créer son projet, son entreprise, son association. Et du coup, on travaillait tous ensemble pour s'aider mutuellement. Et un jour, on a fait une séance de brainstorming pour trouver le nom de ma chaîne YouTube. Et pendant une demi-heure, on a réfléchi à plein de noms. Et c'est un pote à moi qui a dit « Ah, mais tu pourrais t'appeler Drop of Curiosity ». Les autres ont dit « Ah ouais, c'est cool ». Parce que Drop of Curiosity, en anglais, ça veut dire « une goutte de curiosité ». C'est des valeurs qui me plaisent sur ma chaîne parce que c'est vraiment pour les gens qui sont curieux d'apprendre comment fonctionne le cerveau et le comportement humain. Et du coup, c'est resté Drop of Curiosity.
Avez-vous une chaîne secondaire ?
Non, j'ai pas de chaîne secondaire. Déjà, j'ai pas assez de temps pour m'occuper de cette chaîne. Par contre, j'ai une chaîne TikTok. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée aussi du contenu spécial pour TikTok. En ce moment, ça me plaît plus faire des vidéos pour TikTok que sur YouTube. Et là, c'est pas la même manière de faire. On a beaucoup moins de temps. On a 59 secondes maximum pour convaincre les gens de s'intéresser aux sciences. Alors que sur YouTube, on peut faire des vidéos de 5 à 10 minutes. Et donc, c'est assez intéressant. Et pour l'instant, TikTok, ça marche bien. Aujourd'hui, on est à combien? On a 55 000 abonnés sur TikTok, alors que sur YouTube, on est à 1500. Donc, on voit bien qu'il y a une grosse différence. Il y en a un qui marche plus que l'autre.
Faites-vous des placements de produits et recevez-vous de l'argent en retour?
Non, je ne fais pas de placement de produits. Par contre, des fois, je travaille pour des institutions qui font de la vulgarisation scientifique. Et donc, ils me contactent, ils disent « ce serait cool que tu fasses une vidéo sur telle thématique, pour tel événement. » Et en échange, nous, on peut te rémunérer. Et c'est comme ça que j'ai reçu un peu d'argent avec mes vidéos YouTube. Mais ça ne permet pas de vivre pour le moment. Ça fait du bien de temps en temps de recevoir de l'argent ponctuel pour ça. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose de viable à long terme.
Quels sont les autres réseaux sociaux que vous utilisez pour poster vos vidéos et pourquoi? En dehors de TikTok.
On utilise Instagram. En fait, je suis présent sur pratiquement tous les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. On est même sur des trucs un peu moins connus, ça s'appelle Quora. C'est un réseau social pour répondre à des questions. J'ai été aussi pendant quelques mois sur Pinterest. On a essayé aussi sur Twitch. Je crois que c'est tout. On a à peu près tout essayé. Le problème, c'est que quand on veut faire ce métier-là, faire de la vulgarisation scientifique, il faut se concentrer sur un réseau parce que ça prend énormément de temps de créer du contenu. C'est quelque chose qu'on se dit, mais c'est trop facile de faire une vidéo, je me filme devant la caméra et hop, c'est fait. En fait, non, ça prend énormément de temps, surtout quand on parle de science, par rapport à toutes les étapes que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, faire du contenu pour Instagram, faire du contenu pour Twitter, tout ça, ça prend énormément de temps. Donc, on a décidé de se concentrer sur YouTube et sur TikTok. Et là, actuellement, on a une stagiaire qui kiffe Instagram. Et du coup, elle est arrivée, ouais, moi, je veux faire Instagram. Et du coup, on lui a dit, bah, vas-y, fais Instagram. Et pour l'instant, on kiffe tout ce qu'elle fait. Donc voilà, on est sur trois plateformes.
Recevez-vous des messages de vos followers? Et si oui, sur quels réseaux sociaux?
Pratiquement sur tous, hein, on a des gens sur YouTube qui commentent les vidéos, pas trop, j'aimerais un peu plus. Sur TikTok, on en a énormément qui commentent nos vidéos, qui des fois ils veulent en savoir plus, des fois ils disent ouais, c'est super ce que vous faites. Sur Twitter, pas trop, Instagram, beaucoup, surtout qu'on fait des appels à l'action pour leur demander, on leur pose des questions, donc des fois ils nous répondent. Et donc voilà, donc sur plusieurs réseaux, et ça aussi, ça demande énormément de temps de répondre à chaque personne, surtout quand ils posent des questions très compliquées sur la dernière fois, on nous a posé la question, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon cerveau pour les déjà-vus? Donc je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène, donc vous avez l'impression d'avoir vu quelque chose, mais en fait, vous ne l'avez jamais vu. Ça s'appelle un déjà-vu et il se trouve que c'est juste le cerveau qui déconne un peu. Et donc, pour répondre à cette question, on a dû chercher la réponse et ça nous a pris quelques heures. Donc voilà, ça prend du temps.
Avez-vous déjà rencontré certaines de vos abonnées?
Oui, une fois. C'était à l'époque où il n'y avait pas le Covid et qu'il y avait de l'événementiel et ce genre de choses. Moi, j'avais un stand pour présenter ma chaîne et mon projet. Et il y avait des gens qui étaient déjà abonnés à ma chaîne, qui étaient là. Ça a été drôle. Je ne m'attendais pas. Voilà, c'est tout.
Combien de mails ou de commentaires recevez-vous par semaine?
Je ne saurais pas te dire exactement. Ça dépend à quel point on a publié du contenu et à quel point ce contenu il est engageant. C'est-à-dire que des fois, on peut sortir une vidéo, la personne regarde la vidéo et dit « Ok, c'est bon ». Mais des fois, on peut sortir une vidéo et on pose une question intéressante. Et du coup, là, on peut avoir énormément de commentaires. Donc là, actuellement, sur TikTok, on a sorti une vidéo ce week-end. Et depuis, on a eu 200 commentaires. Donc, on ne peut pas tous les lire. Et par mail, on reçoit de temps en temps quelques questions, pas beaucoup. Et sur YouTube, vu qu'en ce moment, on est en pause, on n'a pas beaucoup de commentaires.
Quel était le thème de la vidéo qui a suscité les 200 commentaires ?
C'était sur Einstein. On avait raconté une anecdote sur lui, qu'en fait, à la mort d'Einstein, il avait écrit sur son testament qu'il voulait être incinéré. Il ne voulait pas donner son corps à la science. Et le médecin qui s'est occupé de son autopsie après sa mort a volé son cerveau en cachette. Il l'a ramené chez lui pour pouvoir l'étudier et essayer de comprendre pourquoi ce monsieur, c'était un génie. Et ça, c'est une histoire un peu oubliée. On ne sait pas trop qu'on avait volé le cerveau d'Einstein. Et en fait, ce cerveau, après, il a été découpé en plusieurs morceaux. Il a été envoyé dans presque tous les laboratoires du monde. Donc aujourd'hui, le cerveau d'Einstein, il est dans des bocaux répartis sur toute la planète Terre. Et c'est quand même incroyable parce qu'il ne voulait absolument pas que ça se fasse comme ça.
Pourquoi il ne voulait pas qu'on donne son cerveau à la science pour... Parce que ce serait quand même bien qu'on sache comment il a su faire tout ça. Et de quelle manière il s'y est pris et comment il y est arrivé ?
Tu vois, cette question, c'est la même question qu'on nous a posée sur TikTok, et c'est une très bonne question. C'est parce que Einstein savait à sa mort qu'on n'a pas les outils ni la technologie aujourd'hui pour pouvoir savoir que, enfin, on peut pas prendre le cerveau d'une personne, surtout d'un cerveau mort, le regarder et dire ah voilà, c'est pour ça qu'il était super fort. On n'a pas les technologies aujourd'hui et peut-être qu'on les aura d'ici 100 ans, 200 ans. On est très loin de pouvoir faire ça. Et il avait aussi peur qu'on vénère son cerveau parce que souvent, de plus en plus dans les sciences, les gens qui ne sont pas scientifiques et qui ne comprennent pas trop comment ça fonctionne, la méthode scientifique, dès qu'il y a un grand scientifique qui découvre des choses un peu incroyables, il commence à le vénérer et dire « Ah, oh, cette personne, c'est un génie !» Alors que pas du tout, c'est juste une personne qui a étudié pendant très longtemps et qui, souvent, a eu de la chance et a trouvé une réponse à une question qu'on se posait depuis beaucoup de temps. Et c'est le cas d'Einstein. C'est pas qu'il était hyper intelligent, c'est juste qu'il a beaucoup travaillé et il a trouvé une hypothèse par rapport à la question qui se posait. Et donc, il voulait pas qu'on le vénère comme... On l'avait fait par le passé, pour certains scientifiques, on avait dans le Moyen-Âge, même avant, on déterrait des corps et on prenait des bouts d'os. Et avec ces bouts d'os, on les vénérait, on se disait « Ok, si j'ai cet os-là, alors je serais plus intelligent parce que ça appartenait à telle personne qui était intelligente. » Et ils voulaient absolument pas faire ça. Et du coup, c'est raté.
Est-ce que vous regardez d'autres vidéos de YouTubeurs et qui ?
Oui, on essaye constamment de regarder un peu de tout, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Moi, je regarde beaucoup de youtubeurs scientifiques, un peu moins le reste. C'est juste parce que j'ai pas trop le temps, mais sinon je le ferais. Alors qui je regarde bon, il y a Dr Nosman, que peut-être vous connaissez. Il y a Dirty Biology, qui fait des vidéos pas mal. Après, il y a toujours les boss, genre Cyprien, Squeezie, McFly et Carlito. Norman fait des vidéos... Voilà, ça, c'est les maîtres. Donc, on essaye de voir un peu ce qu'ils font, comment ils parlent à leur communauté. Et on essaye de s'en inspirer, sachant qu'on ne fait pas du tout le même métier. Eux, ils font du divertissement. Nous, on fait de la vulgarisation scientifique à travers le divertissement. Et en ce moment, on regarde aussi beaucoup de TikTokers pour voir comment ils communiquent. Il faut toujours voir ce que font les autres pour pouvoir se démarquer et faire mieux.
Est-ce que vous avez des haters ?
Non. Non, j'en ai pas. Pas sur YouTube. Et j'en veux des haters parce que une fois qu'on a des haters, on peut se dire ah ok, c'est bon, on commence à peser dans le game. Parce que tous les gros youtubeurs, ils ont des personnes qui sont là, des trolls qui disent de n'importe quoi juste pour contrarier le youtubeur. Sur TikTok, on en a quelques-uns, mais c'est pas des gens récurrents. C'est juste que pour certaines vidéos, ils arrivent et ils disent c'est nul. Et puis ils disent rien d'autre. Donc ça nous fait ni chaud ni froid. On sait que ça marche comme ça, mais voilà. Moi, j'avais une question.
Oui.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'intéresse à être YouTuber ou à créer du contenu sur YouTube, sur TikTok ou même qui le fait déjà ?
Oui, il y a moi.
Oui, tu fais quoi comme vidéo ?
J'ai deux chaînes YouTube. J'en ai une parce que je fais de la musique et une autre parce que je fais des tutos pour aider les gens qui n'ont pas trop d'argent.
D'accord, ok. Et tu t'es lancé quand ?
Je me suis lancé sur la chaîne d'Orab, je me suis lancé il y a 2 mois, pour l'instant. Et sur la chaîne où je fais des tutos, je me suis lancé il y a 9 mois ou 8 mois.
Ok, bah, c'est trop cool. Je veux bien qu'on me donne après le nom de ta chaîne, comme ça j'irai voir. Okay. Moi je pense qu'il faudrait que tout le monde fasse ça, rien que de se filmer, de se montrer sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Si ça vous aide énormément pour après, si un jour vous voulez chercher un travail ou quoi que ce soit, parler à la caméra, essayer de convaincre des gens de regarder la suite de vos vidéos, ça va vous apporter plein de choses. Et en plus, ça demande pas trop d'efforts au début, donc... Moi, je vous invite à vous filmer de temps en temps et juste de parler d'un sujet qui vous intéresse. Vous allez voir, c'est assez intéressant.
Et après, ben, y a moi qui fais oui. une chaîne YouTube sur le modélisme.
Et tu t'es lancé quand ?
En début 2020.
Ok, pendant le Covid un peu.
Oui, ben, quand le Covid il a commencé. Et du coup, ben, j'ai créé ma chaîne YouTube pour partager ma passion, discuter avec les autres qui ont la même passion que moi et du coup... Ben,
c'est trop cool, t'as trop bien fait. Moi, quand j'étais au collège, bon là, je vais prendre des années, mais genre, il n'y avait pas trop YouTube, c'était pas trop élaboré comme aujourd'hui. Et moi, j'aurais trop voulu faire ça à cette époque. Moi, je faisais des petits courts-métrages et j'aurais adoré mettre ça sur YouTube. Partagez votre passion, ça fait toujours du bien. Moi, je vous encourage à faire ça.
Ok, merci.
Moi, j'ai une chaîne YouTube depuis... 2018-2019 et je fais du gaming et je teste tous les jeux qui sortent.
D'accord, ouais. Tu joues et en même temps tu te filmes ?
Non, je préfère pas monter ma tête. Enfin, je le faisais avant mais je le fais plus maintenant. Bah en fait, j'attends qu'il y ait des nouveaux jeux qui sortent et je les achète et après je fais ma vidéo au calme et voilà.
Ok, trop cool. Et pourquoi pas sur Twitch par exemple ?
Parce qu'en fait sur Twitch c'est compliqué, il y a trop de monde. Enfin même sur YouTube mais... Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de monde sur Twitch. Il y a trop de personnes trop connues.
Ouais, ouais, non, t'as pas tort. Et tu fais des lives de temps en temps ?
Ouais, ça m'arrive, mais rarement, parce que des fois, on n'a pas une trop bonne co. La connexion... Ouais.
Ouais. Je comprends.
On n'a pas tous la fibre.
Voilà. Ouais. Ok, bah c'est trop cool.
On va conclure. Je te remercie beaucoup pour la pertinence de tes réponses. Je pense que ça fait cheminer pas mal de choses.
Super.
Et merci aussi aux élèves pour leurs questions qui étaient bien construites, pertinentes. Je pense qu'on a un super contenu.
Merci beaucoup.
Merci pour vos questions.
Les youtubeurs cherchent à nous influencer ?
N'importe quoi. Moi, en regardant ma youtubeuse préférée, j'ai acheté le produit pour boucler les cheveux qu'elle conseillait. Il est trop bien.
Ah ouais ? Mais ils sont toujours bien. Arrête tes cheveux.
Ah ben ouais, c'est vrai.
La frontière entre le divertissement et le marketing est parfois floue. Certains youtubeurs célèbres ont des accords avec des grandes marques pour placer des produits.
D'autres youtubeurs ont carrément créé leur marque et n'hésitent pas à en faire la pub.
Donc, attention ! Quand vous cliquez sous les liens sous les vidéos, vous risquez de perdre quelques euros.
Cependant, quand on a besoin d'acheter un produit, un jeu ou autre chose, certains youtubeurs peuvent être de bons conseils. Mais il faut rester vigilant.
Nous avons pu réaliser cette vidéo grâce à Estelle Cabriac et Jeannie Soulard de l'association Les Chemins Buissonniers. Grâce à Claire Bigot de Radisaud, grâce à la DRAC, Occitanie qui a financé notre projet éducation aux médias, nous les remercions chaleureusement.
Un énorme merci aussi à Gonzalo Ruiz, Drop of Curiosity, ainsi qu'à toutes les personnes du collège qui ont accepté de participer à notre micro-trottoir.
Bien sûr, merci aussi à nos enseignantes, Madame Duvignac et Madame Ferrand. Et enfin, à la direction de l'établissement, Madame Boucher et Monsieur Lagui.
Les extraits musicaux sont de Guess What Be Some Toast, Nova Mona Gaia, Dolling Be Cyber SDF et le slam de Eugénie Soulard.
Radio Tintamar.
Radio Tintamar.
Collège Rancel.
Radio Tintamar.
Je m'appelle Lindsay.
Je m'appelle Emily.
Je m'appelle Nassim et j'aime bien les jeux vidéo.
Je m'appelle Louis.
Je m'appelle Eloan.
Je m'appelle Oriana.
Je m'appelle Mehdi.
Je m'appelle Fernando.
Je m'appelle Adeline.
Je m'appelle Mathieu.
Radio Tintamarre.